Oui, donc je rappellerai le titre de ma communication, en fait, qui n'est pas sur le programme, Vivre en guerre, obéir, contourner, refuser, à travers le témoignage d'Henri Nespérière. Tout ça pour souligner en fait que dans ma communication, j'ai voulu essayer de mettre en avant la complexité des expériences, la complexité des attitudes et des pratiques des soldats au front, à travers un témoignage. Donc, je me suis plus posé des questions, ou voulu poser des questions, que de vouloir apporter des réponses. Alors, sur la forme du témoignage en elle-même, il m'intéressait de travailler sur les lettres d'Henri Despérières, donc qui a écrit environ 150 missives à ses parents entre août 1914 et septembre 1915, parce que il n'y a dans son témoignage aucune volonté éditoriale, c'est une source vraiment directe. Il n'y a pas de réécriture non plus. On a ces lettres aujourd'hui parce qu'il y a eu retranscription du courrier par son père après sa disparition en septembre 1915. On a quelques lettres originales qui restent. J'ai pu les comparer avec le texte, la retranscription du père. Et il n'y a pas un seul mot qui est changé. Il y a même les fautes d'orthographe encore qui sont laissées. Voilà, donc ça interroge l'historien sur cette façon de traiter le témoignage. Et ici, il me semble qu'on a trop souvent tendance pour 14-18 à faire un mélange en fait entre roman, souvenir et source vraiment directe sans réécriture. Et là, il est intéressant de pointer ça du doigt. Et également, il est intéressant dans le témoignage d'Henri Despérières de voir que dans sa correspondance, il revient sur son carnet de combattant fin août, fin 1914, sur ce qui s'est passé au mois d'août. Donc on peut comparer ses lettres et le carnet qu'il a écrit en même temps. Et donc on peut traquer l'autocensure notamment. Donc là, il me semblait intéressant. Sur le fond maintenant, puisque j'ai peu de temps, son témoignage est intéressant pour travailler sur les stratégies relationnelles, les liens qui sont tissés au front, la reconstruction d'une sorte de société combattante, ou deux sociétés combattantes. Et notamment en prenant en compte les identités sociales, mais les identités aussi militaires. Hein, des combattants qui sont évolutives, ces identités-là, notamment, et c'est le cas d'Henri Despérières. Alors, dans ces stratégies relationnelles, il me semble intéressant d'étudier là aussi le témoignage de Despérières, parce que on voit un petit peu évoluer sa propre place, hein, dans la guerre, puisqu'au départ il est simple soldat, et ensuite il devient sergent, donc il est intégré dans la hiérarchie. Et donc on voit ces liens se transformer, notamment vis-à-vis des officiers, notamment vis-à-vis du lieutenant Allaire, avec qui il partage en fait le quotidien maintenant. Il n'est plus dans la troupe. Donc on a un changement de regard qui est tout à fait intéressant. Sur la question de l'obéissance et de la désobéissance, là aussi on a trois temps. Dans son témoignage en 1915, où il y a des obéissances collectives. Alors, lui essaye, Rémi Cazal l'a bien souligné dans le résumé, lui essaye petit à petit aussi de se dégager de la violence du front, mais on voit aussi à travers son témoignage des obéissances collectives. Il y en a trois, elles sont intéressantes parce que la première concerne une section, la deuxième concerne une compagnie, et la troisième concerne l'unité elle-même, le régiment. Et là, le colonel limite la violence, l'ordre qui lui est donné, il ne fait pas sortir ses hommes. Donc vous voyez qu'on parle beaucoup des officiers et des officiers de contact et des officiers supérieurs. Il y aurait ici un vrai travail à faire entre les lieutenants, capitaines, colonels, et cet effet unité aussi peut-être dont parlait Antoine Prou. Je voudrais faire là aussi une distinction qu'on n'a pas faite, il me semble, ce matin, et je pose la question. On a parlé beaucoup des officiers, je l'ai déjà souligné, mais on n'a pas mis en valeur la différence qu'il y a entre les officiers de réserve et les officiers d'active, qui là posent aussi ces questions de stratégie entre les hommes. Pour terminer, il m'a semblé à travers le témoignage de Despérières qu'on retrouve ce que Tony Ashworth avait montré pour l'armée britannique, c'est-à-dire ces stratégies, soit individuelles, soit collectives, de limitation quand même de la violence. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le témoignage de Despérières, je n'ai pas le temps ici, mais voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer.